Эми чындыгы бир тарткан ошол бул жерде баягы көнүп алганбыз.
Après la chute de l'Union
Анан экинчиси
soviétique, ils sont
ошол
restés un
сайыштар алган
peu
учурда биз ордодо
enclavés,
калганбыз да
parce que l'État les a oubliés. Et comme ils ont vécu leur vie ici, ils n'avaient pas de terrain là-bas, ils n'avaient pas de maison en bas, du coup, ils ne savaient pas quoi faire et ils ont décidé de rester ici.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, c'est le plaisir de vous emmener pour une heure au Kirghizistan. Kirghizistan ou Kirghizistan, comment choisir? Plein de personnes se posent la question, nous posent la question depuis lundi. Donc les deux sont justes, on peut dire Kirghizistan, on peut dire Kirghizistan, on peut même dire si on veut, pareil que c'est très joli aussi, Kirghizie. Capitale donc Bishkek avec ses immeubles soviétiques, ses parcs publics, ses espaces verts, sa roue du diable et son musée national d'art où on était hier. Rappelez-vous cette image forte de ces babouchkas, ces grands-mamans russes qui terminent leur vie comme gardiennes, assises sur une chaise en plastique dans ce musée quasi désert. Et on va quitter Bishkek aujourd'hui, on va partir dans la campagne, dans la montagne même, parce que le Kirghizistan, c'est un pays d'altitude. 90% du territoire se trouve à plus de 1500 mètres. Le pays est entouré de plusieurs sommets à plus de 7000 mètres d'altitude. Et c'est donc un pays où les communications sont difficiles, pays de pistes et de cheval, plus que de routes et de camions. On verra cela aujourd'hui avec un Suisse, il s'appelle Bernard Repon, il vient de Bulle, c'est un fou du Kirghizistan et parmi les nombreuses activités qu'il a dans ce pays, eh bien il aide les paysans kirghizes à construire, à réparer des ponts, ponts en bois au-dessus des rivières et des torrents pour permettre aux populations des montagnes de se déplacer, de communiquer, de transhumer, de commercer. Bernard Repon sera par téléphone dans une demi-heure environ. Et puis, en toute fin d'émission, nous passerons des montagnes du Kirghizistan aux plages du Brésil pour prendre des nouvelles de Jean-Jacques Fontaine qui est en train de réaliser pour nous des carnets de route à Rio. Mais là, avec Mathilde Goanek et Camille Magnard, cap sur le Kirghizistan, on quitte Bishkek direction le sud, direction la vallée d'Aksaï, un grand plateau pelé à 3500 mètres d'altitude, à deux pas de la frontière chinoise.
On est parti là sur la route de la vallée d'Aksaï. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu notre chauffeur?
Oui, il s'appelle Ok. Et il vient du village d'où je viens, voilà.
Donc ça nous permet de repréciser, donc tu es Nourali, tu vas être notre accompagnateur dans la vallée d'Aksaï. Et donc pour les présentations rapides, toi tu es un professeur de français à l'université de Bishkek. Et on t'a débauché quelques jours pour venir nous montrer un petit peu ton pays. Toi, tu es originaire de la région.
Oui, je suis origine d'ici, de la région Baché.
Alors peut-être on pourrait profiter que la route est encore assez bonne avant qu'on monte dans les montagnes pour faire connaissance un peu avec notre chauffeur. Est-ce qu'il peut se présenter, nous dire un peu qui il est, qu'est-ce qu'il fait
Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, je suis au chômage et ce que je fais, c'est faire le taxi et gagner un peu pour la vie.
Donc, c'est sa voiture, là, cette OAZ, ce 4x4 russe, c'est sa voiture qu'il a achetée?
C'est ma voiture privée.
Et c'est, si j'ai bien compris, une des seules voitures qui peut monter de l'autre côté des montagnes, là, qui peut nous emmener dans la vallée d'Aksaï?
Oui, on dirait que c'est ça. Il y a des voitures dans le village, mais ils sont en panne pour l'instant.
Parce que là, la route, est-ce qu'il peut nous expliquer un peu quel itinéraire on va faire et puis comment est la route qui nous attend ?
Команды босого барабыз, лагерь бар эмес мурда, эски лагерь болчу. Андан 5 белчер, андан кында башталат берип ал.
Donc là, on va traverser les villages comme Bashkaende, Özgörüş, etc. On arrive jusqu'à la vallée de Kamandé. On va passer devant l'ex-camp de pionniers soviétiques. Donc on arrive au col Rda. Et après, c'est la vallée de Aksay qui commence. Après Kinda, c'est la vallée qui commence.
Alors, il y a combien ce col là qui nous sépare de la vallée d'Aksay ?
Il y a 14-18 km.
Je ne sais pas exactement combien d'altitude, mais c'est assez haut. Il y a à peu près 14-15 serpentines.
Ah d'accord, des lacets dans la montagne pour arriver jusqu'en haut. D'accord, c'est à ça qu'on mesure la hauteur du col.
C'est assez difficile de d'y parvenir car c'est la zone frontalière avec la Chine et il faut avoir des papiers nécessaires, quoi. D'après ce qu'on dit, d'après ce que les gens du village disent, il y a deux contrôles à passer avant de parvenir dans la vallée d'Aksay.
On est assez surpris quand on passe le col, on reste quand même dans le haut de la vallée, c'est des vallées assez étroites avec beaucoup de neige et puis ça fait plusieurs heures maintenant qu'on n'avait pas vu une seule voiture, pas vu un seul bâtiment habité. Puis là on tombe dans la vallée sur ces trois grands bâtiments de style soviétique, des grandes garnisons militaires. Ça montre que la frontière est toujours une frontière qui est bien gardée, même aujourd'hui. On avait envie de parler aux gardiens et de leur poser des questions sur leur vie dans ces endroits assez reculés. Tu nous disais qu'il ne fallait pas trop sortir les micros et qu'il fallait rester assez discret. Parce qu'on a peur de quoi ici, alors, aux frontières ?
Vous avez vu qu'ils ont demandé si nous avons des fusils, pourquoi on n'allait pas ici. Donc, ils pensent toujours qu'on est venu ici pour espionner. Ça continue depuis la chute de l'Union soviétique. Ça a resté, ça n'a pas changé.
Et bien, on voit que, d'ailleurs, c'était assez étonnant de voir que les gardiens qui gardent la frontière sont habillés avec des habits de l'armée soviétique, ont toujours les insignes soviétiques sur leur costume, ça c'est assez surprenant.
Oui, ça a resté, on n'a pas changé les habits, les tenues.
Le chauffeur nous a fait signe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on approche d'un village ?
Qu'on approche d'un village où on va dormir cette nuit. On va s'adresser à Aybek, c'est une personne qui vient de mon village et qui vit ici avec sa famille.
Nous approchons de leur maison. C'est ici.
C'est ici, mais c'est fermé. Chez les voisins.
Ils ne sont pas là.
Il y a un cadenas, d'ailleurs.
Alors, ok, notre chauffeur est descendu voir s'il pouvait trouver Aybek, que nous cherchons.
Descends.
Alors on est arrivé là donc au milieu de la rue qui a l'air d'être la rue principale de ce village. En face de nous on a un plus grand bâtiment que les autres, ce n'est pas une maison d'habitation qui est complètement abandonnée. On voit qu'il n'y a plus de fenêtres et les murs tombent en ruine. Le jeune homme qui nous accueille ici, ce n'est pas celui que nous cherchons.
Ce n'est pas Aybek.
Et alors Aybek, il est où ?
Il est parti visiter les voisins, il était invité par les gens.
On va peut-être pouvoir se promener un peu, voir un petit peu cet endroit-là où nous venons d'arriver, en attendant Aybek. Ce village où l'on vient d'arriver, c'est ce que les habitants appellent encore aujourd'hui le centre culturel de la vallée d'Aksay. C'est une quinzaine de maisons, deux rues principales et quelques bâtiments administratifs complètement délabrés aujourd'hui. On se demande un peu si on vient pas d'arriver dans un village fantôme et on finit quand même par rencontrer des habitants. Kanibek et Gulnara, par exemple, nous reçoivent chez eux. Ils sont des anciens fonctionnaires de l'hôpital qui avait été bâti ici par les soviétiques. Un hôpital qui lui aussi est désormais à l'abandon.
Саяз нуагында жакшы болчу. Клуб бар эле, булетка, почта, бардык тейлөө мекемелери иштечү. Саяз тарагандан кийин кичине жоголуп кетти. Эми кайра ушул жылдан баштап больница, магазин баары ачылып кайра иштетебиз деп атышат.
À l'époque de l'Union soviétique, il y avait toutes les conditions nécessaires. Il y avait la poste, le club, l'hôpital, la bibliothèque. On avait tous les services. Et avec la chute de l'Union soviétique, tout était abandonné. Et maintenant, on envisage de renouveler ce centre culturel. Il y avait 32 familles et chacun avait sa profession, quoi. Lui et sa femme qui travaillaient à l'hôpital ici.
Ушул эле турган 4 түтүн калган союзуну тарап кеткенде. Андан кийин азыр мына Кудай шүгүр азыр эл көбөйдү, 11 түтүнгө жеттик.
Après la chute de l'Union soviétique, il restait 4 familles ici. Eux et puis encore 2 familles. Maintenant ça augmente la quantité des familles. Ils sont 11 maintenant.
Est-ce qu'ils peuvent me raconter la vie pendant l'Union soviétique?
Союздун убагында бул жерде бардык организация, ар бир мекеме өзү иштечү, өзүнүн.
À l'époque de l'Union soviétique, l'État nous pensait à nous. En fait, tout le monde travaillait, et chaque entreprise installée ici donnait des salaires aux employés. Donc chacun avait son activité et c'était bien organisé. Tandis que maintenant, on s'en sort tout seul, sans l'aide d'État. Après la chute de l'Union soviétique, ils sont restés un peu enclavés. Parce que l'État les a oubliés. Et comme ils ont vécu leur vie ici, ils n'avaient pas de terrain là-bas, ils n'avaient pas de maison en bas. Du coup, ils ne savaient pas quoi faire et ils ont décidé de rester ici.
Et à partir de quelle époque ils ont arrêté de travailler? À partir de quand l'hôpital s'est arrêté de fonctionner?
93-94-тен баштап толук менен иштебей калдык да. Ошондон бери жумуш жок. Эми кол эмгектерибиз менен үйгө кирип көрсөңөр деп болот. Жолдошум художник, негизги кесибибизчи. Бул киши да ошо кол өнөрчүлүк менен, көрдүңөрбү? Аларды бүт баарыбыз эле ошондой азыр. Элдин керегине дагы эле жараап атабыз.
94. Ошо. Ils ont arrêté complètement de travailler ici.
Небере бүттү?
Depuis ils sont restés ici et maintenant ils ont des enfants maintenant qui étaient petits à l'époque de l'Union soviétique et qui sont devenus grands et même ils ont des petits enfants. Ceux qui vont à l'école, ils sont en bas. Ceux qui étudient.
Et ils vont revenir quand ils auront fini leur école, même s'ils font l'université, après ils viendront vivre ici.
Андай жумуш жок да. Университетте окуп бүткөндөн кийин келип бул жерге жашоо үчүн жумуш менен камсыз болуш керек. Алар келе албайт эми.
Болбойт
да эми бул жерге азыр келүүгө. Ан үчүн жумуш ачылса анан келип иштесе болот.
Pour ça, il faut avoir du travail ici, après l'université. Donc, ils ne vont pas venir là. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici?
Enfin, de faire le tour des bâtiments avec le mari de cette dame qui nous a salué tout à l'heure. Et il va nous montrer l'hôpital, c'est lui qui a la clé. Le cadenas était bien grippé, il n'a pas dû être ouvert depuis un bon moment. Mais voilà, c'est comme ça, c'est les gens du village qui ont les clés des bâtiments. Puis on entre dans la première pièce de... l'hôpital, alors voilà, c'est assez impressionnant parce que tout a été un petit peu conservé.
Mais là, c'est resté en l'état depuis 94.
C'était à partir de 96-97.
Ça a cessé de fonctionner.
Si on regarde dans la pièce à côté, qui est la pièce de l'accueil, on voit un portrait qui est d'époque aussi.
C'est Gorbatchev.
Voilà. Ouais. La photo officielle de Gorbatchev qui est posée sur un bureau, comme si on avait quitté le bâtiment en 1991 et puis qu'on avait laissé les choses en place.
C'est la carte de l'Aksaï.
Sur le mur, une carte d'Aksaï.
En relief.
Voilà, on passe de pièce en pièce, et puis dans chaque pièce, voilà, on a encore le matériel qui est là, une table d'examen, une table d'accouchement, des choses qui sont restées là, qui sont maintenant recouvertes par la poussière, quelques vitrines avec du matériel qui doit être ici depuis maintenant, ben voilà, un peu plus de 10 ans.
C'était la salle de dentiste.
Qu'est-ce que c'est que tout ça?
Bossy.
C'est la yourte, la partie de la yourte.
Donc là, il y a tous les composants de la yourte qui sont là, donc les fagots, les mâts qui font le toit, il y a les couvertures en feutre, il y a cet anneau de bois qui fait le centre du toit de la yourte.
Tunduk.
Voilà, tunduk, le célèbre tunduk qui est l'emblème du Kyrgyzstan, qui est très important ici. Et donc c'est des yourtes qui leur servent quand l'été ils vont dans les pâturages.
En été ils montent pour quand ils vont au pâturage.
Et donc il a le droit d'entreposer son matériel ici dans l'hôpital.
Comme il est responsable pour ce bâtiment, il a le droit de garder ses matériels ici.
Voilà, pour terminer la visite, l'invitation à boire le thé à la maison, qu'on n'a pas refusé une fois de plus, hein, parce qu'il faut bien aller se réchauffer, parce que le chauffage ne marche plus non plus ici.
Demander à notre voisin où est-ce qu'on va, chez qui et à quel endroit de la vallée.
Jolgo degen yerden bu chavandar bayağı ochret menen tamak berishet va datalı günleri bayramlarda anan oşon çoğulgan yerge konoqta oturuşkan yerge baratabız da jana aybek attı jigitke.
C'est toujours la vallée d'Aksay et cet endroit s'appelle Jolgo. Donc on va aller chez les gens où on peut trouver notre aïbek qu'on cherche. Parce que c'est la fête. Et chez les bergers, c'est la tradition de s'inviter le jour de fête. Donc aïbek est parti chez les voisins. Donc on va rencontrer plusieurs personnes. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'il nous dit là?
Il cherche le passage pour parvenir la bergerie qu'on va devant.
D'accord, là, donc dans le fond de la du petit vallon, là, voilà. On va grimper là-haut, nous, avec la voiture.
Voilà.
Là, on est en train d'arriver dans les entrelacs du vallon et on arrive vers la bergerie. Donc, c'est un petit carré de terre séchée. On voit qu'il y a du monde, il y a quelques chevaux qui sont là. Il doit y avoir le cheval d'Aïbek qui est venu ici. Et puis, on voit la seule chose qui dépasse, c'est le haut du fourneau, le tuyau par lequel s'échappe la fumée.
Nous sommes réunis à l'occasion de la fête des femmes pour féliciter leurs femmes et pour s'amuser un peu entre les voisins.
Alors pour aller avec la montagne de petits pains qui est devant nous, on nous a fait passer le thé, bien sûr. Alors, qui est ce nouvel arrivant qui vient de nous rejoindre?
Il s'appelle Turganala. Il est éleveur de yak.
Camille.
Turganala.
Mathilde.
Une des invitées ici a commencé à chanter, donc on va l'écouter.
Tobul gutik çavuş
Bir günde onca oluruşsak, onca olu gayra tabışıp, kuşu oyun sal çeli, gaygulundar menen jarışıp. O şentip jürgen gündörüm, bülbülde uzap araytat. Men toyguz jaştık kezimdi, mezgilim koldum talaşat. Kıyalbay turam koş deşi, vay kımbattu kurbun balaçak. Kıyalbay turam koş deşi, vay kımbattu kurbun balaçak.
Qu'est-ce que c'était cette chanson, Nourali? Qu'est-ce que ça voulait dire?
C'est l'amour. L'amour d'une jeune femme qui est tombée amoureuse d'un berger. Voilà.
Est-ce que c'est une tradition? Pourquoi est-ce que les Kirghiz sentent toujours bien et connaissent beaucoup de chansons? Et où est-ce qu'ils apprennent toutes ces chansons alors?
Ils sont talentueux, les Kirghiz. Deuxièmement, il y a la radio.
Et est-ce que le seul moyen de communication vers l'extérieur dans cette maison, c'est la radio?
C'est très important la radio, mais malheureusement, il y a une seule chaîne qui diffuse. C'est plutôt les chaînes chinoises qui diffusent ici, comme ils sont à côté de la frontière.
Est-ce qu'ils ont l'impression d'être isolés dans cette vallée?
Il y a des contacts quand même.
Sizler saat kançada geldiniz. Erteng mına bul tegeretler gözünçele uup qalat da. İnastrandar gelip berdi. Jaqşı anan mınamday sıylap berdi. Özünçe jaŋılıqta bolçu. Ana sizlerin kelgeniñerge biz uşunçalıq qonabız da. Gelip turgula.
Ils ont un bon contact, donc notre arrivée va être diffusée déjà dans la vallée d'Aksaï. À quelle heure on est arrivé, à quelle heure on est parti, qu'est-ce qu'on a fait, tout ça, ça tout le monde va être au courant de ce qu'on a fait ici.
Alors, comment ils font pour transmettre les informations aussi vite comme ça alors qu'il n'y a pas de téléphone?
Comme on s'est arrêté au centre culturel, et c'est le centre de l'Aksaï, tout le monde va avoir cette information parce qu'il y a des gens qui font aller-retour centre leur hivernage et du coup ça va être diffusé déjà dans la vallée.
C'est la radio de la vallée d'Aksaï en fait.
Oui, c'est ça.
Ça chante et ça rigole beaucoup dans la bergerie de Kiris et Larat qui sont nos hôtes pour la soirée. Nous nous approchons un peu plus de la maîtresse de maison qui s'active auprès du feu pour préparer le repas pour tout le monde. Avec une question en tête, comment vit-on quand on est une jeune femme de 24 ans dans la vallée d'Aksaï?
Comme on est jeune, on respecte les âgés, on doit les servir. On doit servir le thé, laver la vaisselle, voilà.
De quel village elle vient? De quelle famille? Est-ce qu'elle est du coin? Est-ce qu'elle est d'Aksaï?
De Narin.
Comment elle s'est retrouvée ici parce qu'elle s'est mariée avec...
Parce que elle était volée par son mari.
Ça existe beaucoup ici?
C'est souvent.
Elle
avait terminé l'école, elle était venue ici au centre et ici elle était enlevée par son mari. Elle a une tante qui habite ici, donc elle était venue pour se reposer et elle est restée.
Elle n'est plus jamais partie. Elle s'est mariée ici ou en bas?
Ici, sous la yourte.
Ça ne lui a pas fait trop peur? Elle a pas été, elle était prévenue que ça pouvait lui arriver?
Elle ne s'attendait pas. Cette histoire, quand elle est venue sous la yourte, elle avait peur.
Maintenant, est-ce qu'elle peut nous raconter sa vie quotidienne?
La vie quotidienne est monotone chez nous. Le matin, on se lève et je me lève, je fais le feu, je prépare le thé, on prend le petit déjeuner. Après, je m'occupe des enfants, je fais le ménage, je fais la lessive, etc. Et le soir, c'est pareil. Je refais le feu, je prépare le déjeuner. C'est comme ça, ça se répète tout le temps.
Est-ce qu'elle dirait que, vu qu'elle vient de Narine, elle ne vient pas d'ici, est-ce qu'elle dirait que la vie dans la vallée est difficile?
Il y a beaucoup de tâches à accomplir ici, c'est quand même difficile, mais une fois qu'on s'est habitué, on ne sent plus la difficulté. Mais quand même, c'est difficile ici de vivre.
Elle nous racontait tout à l'heure son enlèvement et son mariage. Est-ce que quand elle était à l'école, quand elle était une jeune fille à Narine, elle imaginait qu'elle pourrait être une femme de berger et vivre comme ça dans la bergerie avec son mari?
Jamais.
Elle n'avait aucune imagination.
Et aujourd'hui, quand elle repense à tout ça et à sa vie, est-ce qu'elle a des regrets peut-être par rapport à ce mariage ou est-ce qu'elle est maintenant très heureuse comme ça?
Je ne regrette pas, je suis heureuse, j'ai des enfants, des enfants.
Ай-ай, көпөлөг малыстава көкөлү, сени куп ойнорго асыр боюн жет. Өсөл, көрсөң бакча тигине, кызыгасың ичине, эң сонун гүл бар конук кучу ичинде.
Mathilde, Camille, on a vraiment l'impression dans cette vallée d'Aksaï d'être au bout du monde, ou en tout cas à un des bouts du monde.
On est au bout d'un monde qui est le monde russe, au sens large, et on est à la limite entre deux mondes, puisque d'un côté c'est l'Empire russe, ce qui était l'ex-URSS, c'est ce qui reste encore le domaine d'influence de la Russie, et de l'autre côté un monde complètement différent qui est l'Empire chinois.
Donc aux confins de deux empires. On parle, et vous parlez, vous avez rencontré quelqu'un qui a été enlevé. Alors, c'est quoi cette tradition d'enlever les femmes?
C'est une tradition kirghize, spécifiquement kirghize. L'enlèvement des femmes existait avant l'Union soviétique, a un peu baissé pendant l'Union soviétique et revient maintenant que le pays est indépendant. En fait, c'est un jeune homme en âge de se marier repère une jeune fille dans son village ou à Bishkek ou dans la rue. Souvent, sa mère ou sa famille a fait des repérages sur les jeunes filles qui sont potentiellement intéressantes à enlever, c'est-à-dire d'un point de vue familial, financier, etc. Donc il appelle 3-4 copains, il prend une voiture, il longe la rue dans laquelle se trouve la jeune fille et il l'enlève donc de force et il l'amène ensuite dans sa famille à lui.
Et ses parents n'en savent rien?
Alors les parents n'en savent rien, mais à ce moment-là va s'engager des négociations. Donc la famille de la jeune fille va être consultée, enfin va arriver dans la famille du futur mari et va devoir dire si oui ou non elle accepte que la fille reste ce mari et reste dans la famille. Ils peuvent refuser en théorie, et d'ailleurs ça arrive, mais c'est très très rare parce que il en va un peu de l'honneur de la famille. Dire non, ça veut dire que la jeune fille aura été enlevée une fois et peut-être pas deux, ça pourra pas forcément se remarier derrière.
Et la jeune fille, elle a son mot à dire dans cette histoire?
Et non, justement, à part... Ça dépend un peu de la relation entre les parents de la jeune fille et cette jeune fille. Ça dépend un peu si les parents ont envie de donner la parole à la jeune fille. Et souvent, c'est vrai que les jeunes filles nous disent « Moi, je sais qu'il ne m'arrivera rien parce que j'ai confiance en mes parents. Je sais qu'ils ne flancheront pas au moment venu et ils me donneront le choix à moi. » C'est malheureusement pas le cas de toutes les familles. C'est vrai que le poids de cette tradition-là, c'est une tradition un peu renaissante et très important. Et certains parents se laissent un petit peu forcer la main. Oui.
Vous aviez l'impression, elle parle d'une vie monotone et heureuse, cette femme que vous avez rencontrée dans cette vallée d'Aksaï. C'est paradoxal.
Oui, c'est une vie de berger, donc c'est une vie très ritualisée et une vie de travail aussi, donc il y a des choses à faire, etc. Et heureuse parce qu'effectivement, je pense que c'est pas vrai pour toutes les femmes kirghizes, mais le modèle, c'est de se marier et d'avoir des enfants et de combler son mari et surtout ses enfants et de combler aussi sa famille à soi qui attend qu'on ait à son tour des enfants et qu'on crée quelque chose. Donc oui, je pense que les femmes qu'on a rencontrées à Aksaï se disent heureuses, même si pour nous, c'est quand même assez difficile à concevoir tant la vie est dure.
Je pense que c'est aussi tout simplement parce que la vision du bonheur, telle que les jeunes filles l'apprennent dans leur enfance, c'est une famille, bien se marier, avoir beaucoup d'enfants. Mm-hmm. Un vieil homme dans un village, un aksakal, un sage, nous expliquait un jour que la définition du bonheur, c'était beaucoup d'enfants devant la maison, beaucoup de moutons derrière. Donc c'est vraiment par les enfants et par le mariage qu'arrive le bonheur. Donc finalement, à elles d'accepter un petit peu la forme qui va être donnée à leur mariage et de vivre heureuse avec ça.
Ousmanova, 14h39 sur la première. Nous sommes en ligne avec Douchanbe, capitale du Tadjikistan. Et au bout du téléphone, il y a Bernard Repond. Bonjour.
Oui, bonsoir.
La ligne n'est pas très bonne, mais on vous entend quand même. Vous êtes au Tadjikistan, au sud du Kirghizistan. Vous venez de terminer un trek en vélo, c'est ça?
Oui, c'est exact.
Vous êtes
passé 21 jours dans les montagnes du Badakhshan Tadjik.
Mm-hmm. Et vous repartez au Kirghizistan demain?
Oui, demain soir, nous allons atterrir à Bishkek à 22h environ.
Alors Bernard Repond, vous venez de Bulle, vous êtes suisse et vous êtes créateur et président d'une association qui s'appelle Pamir's Bridge, les ponts du Pamir. Pamir, c'est cette grande chaîne de montagnes qui se trouve en Asie centrale, une partie au Tadjikistan. Et cette association a pour but de réhabiliter, de construire des ponts au Kyrgyzstan. Alors dites-nous d'abord, avant de nous raconter ces ponts, la construction de ces ponts, racontez-nous tout d'abord comment vous est venue l'idée de construire des ponts au Kyrgyzstan.
Oui, depuis 1992, je me rends chaque septembre, début octobre au Kyrgyzstan pour faire des treks à cheval. Et dans les années 1999-2000, avec des amis, on était sur des hauts plateaux à 3000-3500 mètres et on a constaté que de magnifiques et immenses pâturages n'avaient plus été pâturés depuis des années. En redescendant dans les vallées, on demande aux villageois le pourquoi de ce non-pâturage. Et ils nous répondent que les ponts sont détruits et qu'ils ne peuvent plus rejoindre ces pâturages, ni à pied, ni en camion, car en mai et en juin, les eaux sont trop fortes. D'où l'idée de faire quelque chose pour eux.
Et comment ça s'est passé alors? Comment est-ce que tout d'abord, c'est possible que ces paysans n'aient pas pu reconstruire les ponts eux-mêmes? C'était une question de moyens, c'était une question de technologie, c'était une question de volonté?
Oui, après la période soviétique, il y a eu les années 91 jusqu'à 86, c'était un peu le chaos général. Toutes ces populations vivant dans les vallées éloignées, isolées, en haute montagne, étaient complètement oubliées du gouvernement. Et ils n'avaient pas les moyens eux-mêmes de refaire ces ponts.
Quelle était la conséquence? Alors, une des conséquences, c'était l'impossibilité pour les troupeaux d'aller dans ces pâturages qui n'attendaient qu'eux. J'imagine qu'il y avait d'autres problèmes aussi dus à l'absence de ponts.
L'absence de ponts a causé aussi un rétrécissement des troupeaux parce qu'ils ont dû vendre des vaches, vendre des moutons, des chevaux pour pouvoir avoir quelque argent pour survivre. Et les troupeaux sont devenus assez restreints à cette époque.
Et donc vous avez décidé avec des amis de créer cette association, Pamir Bridge, les ponts du Pamir. Comment est-ce que vous avez fait très concrètement?
Alors très concrètement, lorsqu'on est redescendu à Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan, on a rencontré le consul de Suisse de l'époque, M. Müller, qui nous a mis en relation avec le directeur d'une ONG qui s'appelle CAMP. Et cette ONG fait partie de l'Institut de géographie de l'Université de Berne. Les buts de cette ONG au Kyrgyzstan, c'est la mise en valeur des pâturages de haute montagne. Donc la relation était excellente. Et tout de suite, le directeur de l'époque de CAMP a été intéressé par notre idée. Mmh. Mais il nous a dit, faites quelque chose en Suisse.
Donc vous avez créé cette association, elle date de 2001, donc presque 9 ans après ce premier voyage au Kyrgyzstan. Aujourd'hui, en 2007, combien de ponts avez-vous construit, avez-vous réhabilité, Bernard Repond?
Alors, jusqu'à ce jour, une trentaine de ponts ont été réhabilités. J'aurai rendez-vous avec la direction de Camp Bishkek dans quelques jours et je saurai exactement le nombre de ponts qui ont été réhabilités durant cet été. Mais c'est entre 34 et 38 ponts. Mais et toujours dans des régions très éloignées des villes.
Mmh. De quelle région? On était tout à l'heure dans le reportage de Mathilde et de Camille. On était dans la vallée d'Aksai, une vallée que vous connaissez, j'imagine, qui se trouve au sud du pays, près de la frontière chinoise. Est-ce que là, vous construisez des ponts ou c'est dans d'autres régions du pays?
Pour le moment, on n'a pas touché la vallée d'Aksai. On a touché la vallée de Kaindé, dans la région d'Inelchek, aussi au sud-est du pays. Dans la région de Ouzgun, c'est tout à l'ouest du pays, et dans les régions de Tchétiogouz, de Karakol, et puis dans la région de Tokmok aussi, mais toujours en montagne.
À quoi ressemblent ces ponts?
Alors, ces ponts, ce sont des ponts qui utilisent les matériaux qu'il y a sur place, c'est-à-dire des pierres et des billes de bois. C'est simplement un entassement de pierres de chaque côté de la rivière ou du torrent. et puis des gros billons de bois qui traversent la rivière, et au-dessus, il y a des planches. Et c'est renforcé encore dans les deux côtés pour le passage des véhicules. En général, la plupart de ces ponts supportent un camion.
Et ce sont des ponts qui résistent aux crues des torrents et des rivières au printemps, ou bien est-ce que vous devez chaque année reconstruire ou reconsolider ces ponts?
Non, ces ponts en général résistent, je dirais, entre 10 et 15 ans, selon les dires des villageois. Ça dépend surtout aussi des protections contre les courants qu'il y a en amont du pont. Et ça, des fois, ça laisse à désirer. Ils font le pont, mais ils oublient qu'il faut faire des protections pour les bords du ruisseau.
Et vous, vous allez aussi construire ces ponts, mais à vous occuper de l'aspect financier. Je veux dire aussi, est-ce que vous apportez une aide technologique ou est-ce que ce sont les populations sur place qui construisent ces ponts? Comment ça se passe?
Ce sont les populations sur place qui ont dans l'obligation de donner un tiers du budget sous forme de travail pour les responsabiliser afin qu'ils maintiennent le pont à la suite de la réhabilitation. Et tout le côté technique est assuré par l'organisation CAMP à Bishkek, qui a son bureau et qui fait appel à des ingénieurs civils ou à des techniciens, toujours locaux. Nous ne faisons que d'essayer de trouver de l'argent en Suisse et on fait le transfert après.
Bernard Repond avec nous en direct de Douchanbé, capitale du Tadjikistan, par téléphone. Vous êtes, je crois, dans les locaux de l'ambassade suisse. Vous saluerez le consul de notre part. Construire des ponts, c'est symbolique aussi. C'est rapprocher les gens, les différentes tribus, les différentes familles, permettre le commerce entre les Kirghizes, construire des ponts entre le Kirghizistan et la Suisse, c'est aussi quelque chose que vous essayez de faire. Qu'est-ce qui vous motive?
Ce qui me motive, c'est en fait la découverte de ce pays depuis les années 92, c'est la découverte de d'autres cultures, de cette culture qui est profondément ancrée encore dans les traditions nomades. Pas oublier que le Kirghizistan, avant la soviétisation, c'est-à-dire avant 1917, était un peuple de vrais nomades. Aujourd'hui, ce sont des semi-nomades, hein, et qui montent dans les alpages durant l'été. Donc cette tradition de nomadisme m'a toujours intéressé, et c'est peut-être pour ça que je suis très attaché à ce pays.
Vous êtes également membre, Bernard Repond, parmi vos nombreuses activités, dont on trouve d'ailleurs une trace sur notre site internet rsr.dromadaire.ch. Vous occupez aussi, vous êtes membre du comité d'organisation d'un festival qui s'appelle At Chabich, consacré, dédié au cheval kirghize. On peut rappeler d'ailleurs que Jacqueline Ripard, qui est une amie à vous, qui fait partie aussi de ce comité d'organisation, avait réalisé il y a quelques années des reportages pour nous au Kirghizistan sur les chevaux. Qu'est-ce qui va se passer durant ce festival? C'est tout bientôt, c'est au mois de novembre. Vous y allez d'ailleurs, vous partez maintenant au Kirghizistan pour cela. Qu'est-ce qui va se passer durant ce festival?
Alors, durant 3 jours... Ce festival à Chabich aura lieu au bord du lac qui s'écoule, à 1700 mètres d'altitude, dans le village de Barskonde. Et là, il y a des courses de chevaux. Et ce sont des courses selon l'âge des chevaux, des 3 ans, des 5 ans et des plus âgés. Et ce sont des courses d'endurance. Ce sont des courses donc qui vont durer sur 17 km, 24 ou 25 km et plus de 30 km. Et en fait, Jacqueline Ripard a essayé de montrer aux cavaliers kirghizes qu'il faut non seulement aller très vite sur une distance, mais aussi pouvoir faire une course sur 30 km et arriver à la fin avec un cheval en bon état.
Ça, c'est le but de la course.
C'est le but des courses. Et à côté de ça, il y a tous les jeux traditionnels équestres qui se passeront, et il y aura une troupe de théâtre, il y a l'animation aussi musicale, il y a les diseurs, les conteurs qui sont là, il y a les marchands de sel, d'équipement, donc tout le panel, disons, qui se rapporte à, aux traditions équestres des Kirghizes est représenté durant ces 3 jours de festival.
3 jours au mois de novembre, vous nous redites peut-être juste les dates pour les personnes qui aimeraient aller jusque là-bas.
Le 2, 3, 4.
2, 3, 4 novembre. Merci beaucoup Bernard Repond d'avoir été quelques minutes avec nous. On vous souhaite un très bon voyage au Kirghizistan demain.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci, bonne soirée à vous, au revoir.
Moi, quand j'étais petit, mon père me disait toujours « il ne faut pas faire du mal au dromadaire, il est capable de s'en souvenir des années plus tard et il est capable de se venger, mais il est aussi capable de se souvenir quand on lui a fait du bien. »
Бағытым қалды сынып, қарып сапар, қарып сапар. Дарчыдай басып өттім араң-араң. Сүйінім оқ жолындай, жолым татар, ей жолым татар. Бойрыл бас жүрілгім. Жынғана өмір жол, ал бір ескі, сағымы жолып сағым, менде бірі. Ол болса менден жақсы, менден жақсы, менден ескі. Аз-аздап күн-күндірсің, күн-күндірсің тағдырыңа. Тұрмыштың тәртібі бар, ей бұрыл алғыз, бұрыл алғыз. Мен күндім бардығына, бардығына. Тирілік бір жол екен, қайталаңғыз, ей қайталаңғыз.
Une chanson kirghize ramenée par Camille Magnard et Mathilde Gohanek. J'en sais pas plus, c'est juste noté musique kirghize, chanteur inconnu. On va passer du Kirghizistan, de la Kirghizie, des montagnes du Kirghizistan aux côtes du Brésil, puisque à Rio, il y a actuellement Jean-Jacques Fontaine. Bonjour.
Bonjour Cyril.
Où est-ce que vous êtes à Rio?
Alors écoutez, je suis chez moi, devant ma fenêtre, en train de contempler une pluie diluvienne qui tombe depuis le milieu de la nuit, il est 11h du matin. Toute la ville est totalement bloquée par le trafic ne fonctionne pas. Il y a même eu un éboulement sur un des principaux tunnels qui relie le nord de la ville au sud. L'aéroport est fermé et la défense civile recommande aux gens de ne pas sortir de chez eux. Comme ça va durer, semble-t-il, jusqu'à demain soir, ben, il n'y a qu'à attendre et voir venir.
Est-ce que ça vous contrarie dans votre programme ou est-ce que vous aviez prévu de vous rendre ce matin?
Oui, effectivement, ça me contrarie un peu parce que j'avais prévu de me rendre ce matin dans un lieu dont tout le monde, je crois, a entendu parler, qui s'appelle Copacabana, c'est une des plages de Rio, pour continuer la réalisation d'un reportage que je suis en train de préparer pour le dromadaire sur l'épaule.
Et de quoi parle ce reportage? Est-ce que vous avez déjà fait des contacts?
La plage de Rio, c'est un lieu évidemment assez mythique, notamment pour les touristes, mais c'est aussi un des seuls lieux de cette ville où toute la population a l'occasion de se croiser et de se rencontrer, quelle que soit son origine sociale. Mmh. Et notamment en fin de semaine, cette plage est bourrée de gens Et ce qui est frappant, c'est qu'on y rencontre non seulement des figures très particulières, mais aussi des gens qui se répartissent selon les endroits et qui ont des caractéristiques très particulières. Par exemple, il y a un endroit des retraités qui jouent au volley-ball et qui ont privatisé un morceau de sable pour leur jeu. Ailleurs, il y a un sculpteur qui fait pour des grandes marques de voitures des sculptures en sable, grandeur nature, de véhicules. Ailleurs, on trouve encore un professeur de sport, un professeur de gymnastique qui consacre bénévolement ses fins de semaine à enseigner le surf aux enfants des quartiers pauvres, etc.
Donc ce sont ces personnes déjà que vous avez pu rencontrer, que vous avez déjà pu enregistrer. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces personnes, sur leur plage et sur leur ville ?
Alors, c'est assez extraordinaire parce que ce sont des gens à la fois très vivants, très simples et qui ont toutes une histoire extraordinaire à raconter. Donc, il suffit de se promener le long de la plage, d'aborder quelqu'un, de regarder et tout d'un coup, on a une tranche de vie, là, une tranche de vie très humaine, très chaleureuse qui apparaît dans une ville qui, par ailleurs, est assez monstrueuse au niveau de sa grandeur, puisqu'il y a 12 millions d'habitants dans l'agglomération. Il y a tout le temps du monde partout, mais chacune de ces petites histoires fait très chaud au cœur, quelque part.
Mmh. Ben, on se réjouit de les entendre, ces petites histoires de la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, au Brésil. Merci beaucoup, Jean-Jacques Fontaine, d'avoir été quelques minutes avec nous. Vous pensez que le temps va quand même s'améliorer ou... Quelles sont les prévisions météo?
Non, là, c'est le début de la saison des pluies, puisqu'on arrive à l'été ici. Hein, la saison est inversée par rapport à l'Europe. Et c'est normal qu'il commence à pleuvoir. Jusqu'à présent, on a eu un grand mois de soleil et de sécheresse. Et semble-t-il, pour le week-end prochain, le soleil va revenir.
Très bien, merci beaucoup. On vous le souhaite en tout cas. Excellente matinée, excellente journée à Rio.
Merci à vous aussi. Bon après-midi.
Merci, bye bye. Here she comes. Tap tap and da da da, tap tap and da da. Here she comes.
Ela é carioca, she's a carioca. Just see the way she walks. Nobody else can be what she is to me. I look and what do I see when I look deep in her eyes? I can see the sea, a forgotten road, the caressing skies. And not only that, I'm in love with her the most exciting way. It's written on my lips where her kisses stay. She smiles and all of a sudden the world is smiling for me. And you know what else? She's a carioca, ela é carioca.
Sonorité du Brésil pour mettre un terme à cette émission. Merci à Jean-Claude Gailly qui était en régie aujourd'hui, à Stéphanie Coudray, notre assistante de production, Nathalie Schoenberg qui a choisi cette chanson magnifique, Dany Sulam responsable de notre site dromadaire.rsr.ch et Monsieur T qui a réalisé les carnets de route. Mathilde Goanec, Camille Maillard, Cyril Desprats, à demain. Il est 11h du matin sur les plages de Rio, 19h dans la vallée d'Axaï et 15h tout juste sur la première.